VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 19 juillet 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
La RDC, l'Assemblée nationale et le Sénat convoqués en congrès ce jeudi pour un message à la nation du président Joseph Kabila.
Au Cameroun, un policier a été décapité hier dans le nord-ouest anglophone.
Au Burkina Faso, arrestation de dizaines de suspects dans le nord et démantèlement de bases terroristes selon l'armée.
Au Nigeria, arrestation également de 8 djihadistes présumés des partisans participant à l'enlèvement de Chibok il y a 4 ans.
Ici à Washington, la porte-parole de la Maison-Blanche clarifie d'autres propos du président Donald Trump sur l'ingérence électorale russe.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale et le Sénat ont été convoqués en congrès ce jeudi pour suivre un message à la nation du président Joseph Kabila. Il s'agit d'un discours très attendu qui devrait fixer l'opinion et dissiper les doutes sur un éventuel troisième mandat consécutif que redoutent ses opposants. Pour rappel, le deuxième et dernier mandat de M. Kabila s'est achevé depuis décembre 2016. Le point avec Thierry Kabondi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Cette adresse à la nation devant le Parlement réuni en congrès intervient dans un contexte particulier, à 5 mois des élections, mais surtout à moins d'une semaine du début du dépôt des candidatures à la présidentielle du 23 décembre courant. Quoiqu'ayant rappelé plusieurs fois qu'il respectera la Constitution qui ne lui permet pas un troisième mandat consécutif, les opposants au président Kabila, la Conférence épiscopale nationale du Congo comme une bonne partie de la population attendent du chef de l'État une déclaration claire sur le fait qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. D'autant plus que certains cadres de sa famille politique n'ont cessé de rappeler ces dernières semaines leur volonté de le voir se représenter à nouveau. Cette adresse devrait également être pour Joseph Kabila une occasion de rassurer la nation à 5 mois des élections quant à l'aboutissement heureux du processus électoral en cours, au respect des engagements contenus dans l'accord de la Saint-Sylvestre dont une partie de l'opposition appelle toujours à l'application intégrale, ainsi que sur le financement des élections que le gouvernement de la RDC a décidé de prendre totalement en charge. Une chose est sûre, comme l'a affirmé la semaine dernière à VOA Afrique Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, le président Kabila devrait annoncer des décisions importantes ce jeudi. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Cameroun, un policier a été décapité hier dans une localité de la région du nord-ouest anglophone où les meurtres de membres des forces camerounaises sont régulièrement imputés aux combattants séparatistes, indiquent des sources concordantes. La sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest anglophone s'est considérablement dégradée. Plus de 80 policiers et militaires y ont été tués depuis le début de la crise, fin 2016.
Au Burkina Faso, 2 personnes, dont le chef d'un village situé dans le nord et frontalier au Mali, ont été tuées par des individus armés, a annoncé mercredi le ministère de la Sécurité. Dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 juillet 2018, le chef de Okuluru, enlevé le 7 juillet 2018 par un groupe d'hommes armés, a été ramené et exécuté à l'entrée de Baraboulé, a écrit le ministère dans un communiqué. Au petit matin, le corps d'un paysan tué par balle a été retrouvé non loin de celui du chef, ajoute le texte.
Toujours au Burkina, l'armée a annoncé hier avoir arrêté 60 suspects au cours d'une opération dans le nord du pays qui a permis, selon elle, le démantèlement de bases terroristes. L'armée a signalé aussi la saisie de nombreux composants, explosifs, batteries, fils électriques, entrant dans la confection d'engins explosifs artisanaux, ainsi que de produits de contrebande. Au cours de cette opération, 3 soldats ont été blessés.
Au Nigeria, la police a annoncé hier l'arrestation de 8 djihadistes présumés. Ils auraient participé à l'enlèvement il y a 4 ans de plus de 200 lycéennes à Chibok, dans le nord-est du pays. Précision d'Irénée Hermanoumbo.
Au total, 22 membres présumés de Boko Haram ont été arrêtés et présentés au public par les forces de l'ordre à Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno. En dehors des 8 présumés djihadistes qui auraient participé à l'enlèvement des lycéennes à Chibok, les 14 autres sont soupçonnés d'avoir participé à la préparation d'attentats suicides à Maïdougouri et dans d'autres villes du nord du Nigeria. Selon le commissaire de police de l'État du Borno, Damien Choukou, ces hommes âgés de 20 à 48 ans, tous originaires de la région de Bama, ont été arrêtés début juillet dans les États voisins du Borno et de Yobe. Les 8 suspects liés à l'enlèvement de Chibok ont tous avoué leur culpabilité, a-t-il indiqué. Ils ont également fourni à la police des informations utiles pour arrêter d'autres commandants en fuite de Boko Haram. L'enlèvement de masse de 276 lycéennes de l'internat de Chibok en avril 2014 avait suscité l'indignation du monde entier. Un total de 57 filles avaient réussi à s'échapper peu après le kidnapping, tandis que 107 autres ont pu être retrouvées ou libérées suite à des négociations entre le gouvernement et les insurgés.
Un groupe de 26 ou 27 migrants sénégalais a été recherché mercredi dans une zone désertique du nord-ouest de la Mauritanie, après avoir fait naufrage sur une plage avec 75 de leurs compatriotes. Ils tentaient de rallier les Canaries espagnoles, ont annoncé les autorités mauritaniennes. Le groupe recherché doit se trouver sur la terre ferme, caché dans des grottes ou entré clandestinement dans la ville de Ouagadougou, a déclaré lors d'une conférence de presse le directeur régional de la police, Mohamed Abdullahi Ould Taleb.
Toute l'Afrique du Sud a salué hier le legs de Nelson Mandela, l'ancien président Barack Obama, l'ancien président américain, et l'archevêque Desmond Tutu lui ont notamment rendu un vibrant hommage. Claire Morejibou.
Nelson Mandela aurait eu 100 ans cette année. Si les célébrations ont enflammé le pays, 5 ans après sa mort en 2013 et près d'un quart de siècle après la chute officielle de l'apartheid, ses rêves d'égalité économique restent toujours lettre morte. Avec des salaires médians de 10 000 rands chez les Blancs contre 2 800 chez les Noirs, la société sud-africaine est aujourd'hui la plus inégalitaire du monde. Sur le plan des festivités, devant près de 200 jeunes réunis à Johannesburg, Barack Obama a rappelé le combat de Mandela. Desmond Tutu, le compagnon de lutte de Madiba, a lui apporté une note plus personnelle et moins politique, en saluant un homme parfait exemple d'humanité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvelle confusion hier à la Maison-Blanche suite à d'autres propos du président Donald Trump sur l'ingérence électorale russe. Lors d'une réunion de son cabinet, une consoeur lui a demandé si Moscou visait toujours les États-Unis. M. Trump a secoué la tête et dit « Merci beaucoup, non ». Interrogée à ce sujet, la porte-parole Sarah Huckabee Sanders a déclaré que la réponse de M. Trump a été mal interprétée et que son nom signifiait seulement qu'il ne répondait pas aux questions. Elle a ajouté que Donald Trump croit que la menace d'une ingérence électorale de Moscou existe toujours.
La vague de critiques suite au sommet d'Helsinki avec le président russe Vladimir Poutine continue d'empoisonner la Maison-Blanche. Le président Trump a donc tenté hier encore de rassurer la classe politique et l'opinion sur sa fermeté vis-à-vis de la Russie. Nicolas Pineau nous en dit plus.
Aucun président n'a été aussi ferme que moi sur la Russie. Je pense que le président Poutine le sait mieux que quiconque, sûrement mieux que les médias, a déclaré le président américain hier depuis la Maison-Blanche. Regardez les chiffres, regardez ce que nous avons fait, regardez les sanctions, a insisté Donald Trump en vantant sa fermeté face à son homologue russe. En début de semaine, le directeur du renseignement américain Dan Coats a mis en avant les évaluations claires de ses services sur une ingérence russe dans la présidentielle de 2016 et évoqué, je cite, les efforts en cours de Moscou pour saper la démocratie américaine. La Russie, qui a de son côté salué le sommet d'Helsinki comme un grand succès, a déploré l'arrestation aux États-Unis d'une de ses ressortissantes, accusée d'avoir tenté d'influencer en secret des organisations politiques américaines au profit de la Russie.
En Turquie, un tribunal a ordonné hier le maintien en détention préventive du pasteur américain Andrew Brunson. Il est jugé pour, je cite, « terrorisme » dans une affaire qui empoisonne les rapports entre Ankara et Washington et que le président Donald Trump a qualifié de « honte totale ». M. Trump a publiquement appelé hier soir son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, a œuvré pour la remise en liberté du pasteur.
En Syrie, l'opération d'évacuation de tous les civils et combattants pro-régime de Foua et Kafraya, les deux dernières localités assiégées de Syrie, encerclées depuis 3 ans par des rebelles, a pris fin aujourd'hui, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Les deux localités situées dans la province d'Idlib sont désormais vides après l'évacuation de 6 900 personnes, civils et combattants pro-régime. Cette opération a eu lieu dans le cadre d'un accord passé entre la Russie alliée du régime et la Turquie soutien des rebelles.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde hier les États membres contre une marche arrière dans plusieurs domaines pour atteindre en 2030 une série d'objectifs de développement durable arrêtés en 2015. Il a reconnu aussi les progrès réalisés dans des domaines tels que la réduction de la mortalité infantile et maternelle, le développement de l'éducation de base et l'amélioration de l'accès à l'électricité. M. Guterres clôturait une réunion de 8 jours sur l'avancement des pays vers ces objectifs.
Fin de ce journal, vous écoutez VOA Afrique.
La Minute Éco.
Au Cameroun, la crise anglophone a un très mauvais impact sur l'économie de la région du sud-ouest anglophone, épicentre des combats entre l'armée et les séparatistes, selon l'ONG camerounaise Human is Right. Les plantations d'huile de palme de l'entreprise publique Pamol ont été désertées dans le département d'Indiane et les villages qui produisent le cacao et le café sont tous à l'arrêt parce que les villageois ont abandonné leur culture. Le Fonds monétaire international a relevé légèrement ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne en 2019 à 3,8% contre 3,7% lors de sa précédente estimation datant du mois d'avril dernier. Le relèvement des prévisions de croissance pour 2019 s'explique essentiellement par la hausse des prix des matières premières et l'amélioration des perspectives économiques au Nigeria. La Chine a annoncé être contrainte de prendre des mesures de représailles supplémentaires contre les États-Unis afin de protéger ses droits et intérêts face aux taxes douanières américaines visant l'aluminium et l'acier importés. Des mesures dites de sauvegarde destinées à protéger l'industrie sidérurgique européenne de l'acier étranger entreront en application ce jeudi. Ces mesures prendront la forme de contingents tarifaires, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain quota d'importation, des droits de douane de 25% commenceront à être appliqués. L'inquiétude autour des tarifs douaniers se répand parmi les industriels américains, selon un rapport de la Banque centrale des États-Unis, qui signale que dans toutes les régions du pays, les manufacturiers se disent désormais préoccupés par le conflit commercial.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Troisième journée de la Coupe CAF, le Raja a frappé fort contre l'ASEC hier.
En déplacement en Côte d'Ivoire, le Raja Casablanca a signé une excellente opération en s'imposant 1-0 sur le terrain de l'ASEC Mimosa. Ce succès permet aux Marocains de virer en tête de la poule A avec 1 point d'avance sur l'AS Vita Club qui est tombé 2-1 devant Adouana Star du Ghana. Défaite aussi pour l'autre club ivoirien dans le groupe C. Invaincu jusque-là, Williamsville d'Abidjan n'est pas parvenu à enchaîner et s'est incliné 1-0 face à Enyimba du Nigeria. Excellente opération pour l'USM Alger. En déplacement au Rwanda, les Rouges et Noirs ont arraché la victoire dans les derniers instants face à Rayon Sport 2-1. Grâce à cette victoire, l'USM Alger s'offre 2 points d'avance en tête de la poule D devant son dauphin Kenya Gor Mahia, vainqueur des Tanzaniens de Young African 4-0.
Marché des transferts. Kazri a rejoint Saint-Étienne et Bissouma Brighton.
Le jeune international malien, 21 ans, a quitté Lille pour le club anglais de Brighton. Yves Bissouma a signé un contrat de 5 ans. Cette opération devrait rapporter environ 20 millions d'euros au LOSC, dont 3 millions de bonus. L'attaquant international tunisien Wabi Kazri, 27 ans, a lui signé pour 4 ans à l'AS Saint-Étienne jusqu'en 2022 donc. La saison dernière, il avait été prêté par Sunderland à Rennes où il a joué 29 matchs et inscrit 11 buts. Il totalise 40 sélections et vient juste de disputer le mondial en Russie.
Chamberlain, lui, devrait manquer une grande partie de la prochaine saison en Premier League.
L'annonce a été faite par son club Liverpool. Alex Oxlade-Chamberlain a été victime en avril d'une blessure au ligament du genou droit. Le milieu de terrain anglais de 24 ans, arrivé d'Arsenal l'été dernier, vivra une saison consacrée à la récupération et au rétablissement, d'après l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp. En attendant, Liverpool s'est déjà bien renforcé au milieu de terrain avec les arrivées de Fabinho en provenance de Monaco, Naby Keïta de Leipzig et Sheldon Shaqiri de Stoke City.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, les avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall, se disent déçus de la décision de la Cour d'appel de rejeter la demande de libération de leur client. Ils promettent de poursuivre le combat à l'international pour obtenir sa libération. Le 29 juin, la Cour de la CEDEAO a jugé arbitraire sa détention préventive ainsi qu'à la violation de son immunité parlementaire. Khalifa Sall est condamné en première instance à 5 ans de prison pour escroquerie portant sur des fonds publics. C'est une citation. Abdourahmane Dia a joint à Dakar l'un de ses avocats, Maître Amadou Ali Kane.
Je voudrais, comme peuvent le constater tous les juristes, regretter que la justice sénégalaise ne fasse pas cas d'une décision qui est exécutoire et qui s'impose à elle, qui est donc en l'occurrence un arrêt de la Cour de la CEDEAO. Quand on lit cet arrêt qui dit que le droit à l'assistance d'un avocat n'a pas été respecté pour nos clients, s'agissant de M. Khalifa Sall, à partir du moment où il a été élu député, son maintien en détention était devenu arbitraire, qui dit enfin que le procès n'a pas été équitable. Je pense qu'au vu de cette décision, tous les juristes d'Afrique, du Sénégal et du monde entier s'attendaient à ce que la conséquence droit qui en soit tirée soit, un, la liberté d'office des prévenus, deux, l'annulation du jugement qui a été rendu en première instance.
Les avocats de l'État disent que l'arrêt de la Cour de la CEDEAO n'est pas contraignant. Vous êtes d'accord?
Non, l'arrêt de la Cour de la CEDEAO est très contraignant. Cela résulte du protocole d'accord qui a créé même la Cour de la CEDEAO. Dans les textes de la CEDEAO, les textes qui organisent la Cour, il est clairement indiqué que les décisions de la Cour sont exécutoires vis-à-vis tous les États partis au protocole de la CEDEAO. Et ces décisions, non seulement sont exécutoires, mais elles ne sont à partir du moment où ils ont été prononcées. Donc je pense que c'est un faux fusion que les détracteurs de cette décision utilisent.
Maître Kane, la presse locale sénégalaise disait la semaine dernière que le procureur semblait favorable à une libération de Khalifa Sall, le maire de Dakar. Est-ce que c'est une information que vous confirmez?
Pour le ministère public, il y a un adage qui dit que la parole est libre, mais la plume est ferme. C'est-à-dire que lorsque le procureur se lève pour prendre la parole, il peut dire ce qu'il pense. Il a la liberté d'expression. Mais par contre, la chancellerie peut prendre des réquisitions écrites et lui demander de les endosser. Donc, il n'y a rien de contradictoire. Effectivement, quand il a pris la parole, il a demandé à la Cour de se conformer à l'arrêt qui a été rendu par la CEDEAO, parce que c'est un arrêt qui existe, c'est un arrêt qui est exécutoire, et c'est un arrêt qui s'impose à la justice sénégalaise.
Quelle est la prochaine étape de votre combat?
Aujourd'hui, c'est la politique, c'est la force de l'État qui le retient en prison. Et donc, dans les prochains jours, nous allons essayer de faire comprendre cette réalité à l'opinion publique, national et international. Nous savons aujourd'hui qu'il n'y a plus rien à attendre d'une Cour qui dit qu'elle n'est pas liée par une décision rendue par une juridiction communautaire.
C'était Maître Amadou Ali Kane, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En République démocratique du Congo, encore des réactions suite à la restructuration le week-end dernier de l'armée nationale. Human Rights Watch exprime notamment sa préoccupation après la nomination par le président Joseph Kabila des généraux Gabriel Amissi et John Numbi à de nouvelles fonctions dans l'armée. Cette ONG internationale, comme d'autres organisations opérant en RDC, indique que ces nominations accentuent les craintes de nouvelles vagues de répression et d'atteinte aux droits humains. Elles appellent le président Kabila à revenir sur sa décision. Nous retrouvons Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Réagissant aux critiques qui ont accompagné cette série de nominations au sein de l'armée nationale congolaise, M. Tshikese Diemou, cadre de la majorité présidentielle et ancien ministre de la Défense de la RDC, affirme que ces nominations ne peuvent faire l'objet d'un débat parce que relevant de la sûreté de l'État. Il souligne par ailleurs que la justice congolaise n'a jamais condamné les généraux John Numbi et Gabriel Amissi.
Ça relève de la souveraineté de l'État, de la sécurité de l'État, de la sûreté même du pays. Où a-t-on vu, même si c'est la démocratie, débattre ça sur la place publique? Qui est ce critique? Qui est notre standard de référence auprès de qui nous devons nous référer pour que nous ayons une carte de baptême? Non. Ça se fait partout au monde. Vous allez au Pentagone, aux États-Unis. On ne vous permettra même pas d'entrer et de savoir ce qu'ils font. Nous avons une justice, que je sache, notre justice qui est indépendante n'a jamais pris un jugement quelconque dans ce sens. Mais c'est Human Rights Watch, on sait ce qu'ils font. Mon cher, tu vois un peu les immigrants qui vont en Europe, comment ils les traitent, où est-ce qu'ils sont?
Le sénateur Jacques Joly, militaire sous Mobutu, évoque lui l'inopportunité de ces nominations. Pour ce cadre du parti de Jean-Pierre Bemba, elle ne participe pas à l'apaisement ni à l'amélioration des relations diplomatiques entre la RDC et certains pays de la communauté internationale.
Au-delà du caractère discrétionnaire de ces nominations, c'est d'abord le problème de l'opportunité. Nous sommes dans une phase très délicate de notre processus politique. On peut se poser la question sur l'opportunité de ces nominations. Le deuxième problème, c'est le problème au plan politique et diplomatique. Ces nominations de certains officiers généraux qui sont sous la liste des officiers qui ont des problèmes au niveau pénal. Certains sont soupçonnés d'être impliqués dans des crimes graves contre certains défenseurs des droits de l'homme. D'autres sont impliqués dans des crimes graves en matière de pillage de ressources naturelles ou même dans les trafic illicite des armes. Quel est l'intérêt que nous avons à provoquer la communauté internationale? En tout cas, ça ne va pas dans le sens de l'apaisement aussi bien interne et international.
Maître Georges Kapiamba de l'Association congolaise d'accès à la justice appelle lui le président Joseph Kabila à revenir sur cette décision.
S'agissant principalement du général Dion Numbi, vous savez que nous, la communauté des ONG des droits de l'homme, nous continuons à exiger contre lui un procès juste équitable et que nous pensons que ce n'était pas le moment où il fallait le promouvoir comme le président Kabila vient de le faire, d'autant plus puisqu'il y a encore un procès intenté contre lui au niveau du Sénégal. Donc nous demandons tout simplement à ce que le président Kabila revienne sur cette nomination.
Dans la rue, les Kinois interrogés par VOA Afrique sont également divisés sur cette actualité.
Ça relève de ses compétences, on n'a rien à redire là-dessus.
Ces nominations à 5 mois de la tenue des élections font craindre. Il y a plusieurs personnes qui sont visées par les sanctions au niveau international, mais le président Kabila a jugé bon de le reconduire dans de haute fonction au sein de l'armée. C'est un message fort de la part du président de la République.
Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Gabon, le gouvernement a instauré un système de bons de caisse pour débusquer les fonctionnaires fictifs des bons que les salariés de l'État tentent de récupérer depuis 3 jours, non sans difficulté. Cette mesure n'est pas vue d'un très bon œil par certains syndicats, selon Jean-Olivier Makaya Kumba, président du groupe de syndicats des professionnels de la communication, joint à Libreville par Ekia Badou.
Si je me réfère à ce qu'a dit le gouvernement, c'est un recensement qui ne dit pas son nom. Selon eux, ils constatent qu'il y a des fonctionnaires d'État qui perçoivent des salaires. De l'autre côté, il y a des personnes qui sont retraitées mais qui continuent à percevoir des salaires. Et en plus, il y a des gens qui ne travaillent plus mais qui, chaque fin du mois, se pointent à la banque. Pour essayer de vérifier tout ça, ils ont instauré un système de fiche de présence exceptionnelle qui doit être visé par les responsables et renvoyé au ministère de chaque structure pour signature par le secrétaire général. Et ce n'est qu'après cette signature que vous pourrez aller dans les sites qu'ils ont installés pour retirer bons de caisse et puis les banques sont représentées si vous devez aux banques ou leur donner un coupon et ils saisissent, soyez valides.
D'un point de vue pratique, est-ce que cela vous semble possible et réalisable?
On nous demande un peu trop parce que hormis, l'attestation de présence exceptionnelle devait être également munie de l'attestation de prêt de service. Donc la période à laquelle vous êtes rentré dans l'administration et votre pièce d'identité. Depuis plusieurs années, nous n'avons pas cessé, l'État n'a pas cessé de nous faire remplir ce genre de documents. Il y a quelques mois, ça a été fait. Ils ont, disons, engrangé plus de 400 millions. Seulement, on ne sait pas où va cet argent par la suite.
Le gouvernement a-t-il besoin de ce recensement?
Je pense que si on avait chez nous une administration organisée, on n'avait pas besoin de ça parce qu'il y a la fonction publique. Il y a dans chaque département ministériel un département de ressources humaines. Dans deux ans, il va être retraité. Qu'elle est déjà retraitée et puis avoir un fichier. Donc on n'avait pas besoin de faire balader le travailleur gabonais pour un soi-disant recensement que chaque administration aurait pu faire en toute quiétude.
Alors selon vous, quelle autre solution? Est-ce qu'il y a peut-être une défaillance pour qu'on puisse venir quand même à ce système de bons de caisse?
Effectivement, il y a une défaillance. Le système est malade dans ce pays. Il y a beaucoup qui se disent fonctionnaires alors qu'ils ne le sont pas. Il y a beaucoup de personnes décédées mais dont les salaires continuent à passer. Il y a également ceux qui ont des doubles salaires. Donc ça leur a permis, ça permet au gouvernement de regarder tout ça. Et puis il y a eu une bonne manne, une bonne enveloppe qui est revenue à l'État. Comme hier, on était reçu par le ministre de l'État de la Communication. Nous avons posé la question de savoir où va cet argent. Mais malheureusement, bon, c'est resté en suspension.
C'était Jean-Olivier Makaya Kumba, président du CIPROCOM au Gabon.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur le tête-à-tête inédit lundi dernier entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. S'agit-il d'un nouveau chapitre des relations entre Washington et Moscou? Les deux dirigeants ont-ils intérêt à s'entendre? Que peut signifier pour le monde, y compris pour l'Afrique, une normalisation des rapports russo-américains? Mais les points de friction comme l'Ukraine, la Syrie et les accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine sont-ils des obstacles à cet éventuel rapprochement? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Ne manquez pas Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h30.
C'est l'une des conséquences de la décision du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane sur des produits chinois importés aux États-Unis. Le plus grand complexe portuaire de ce pays à Los Angeles en Californie, sur la côte ouest, s'inquiète de l'impact de ces nouvelles mesures tarifaires et se prépare en conséquence. Reportage d'Elisabeth Lee et de Bagassi Koura.
Les dernières semaines ont été extrêmement stressantes pour Liang Yang, qui possède une entreprise de vente en gros à Los Angeles. Liang Yang est un importateur de produits chinois.
Je regarde les nouvelles tous les jours. Quand est-ce que les tarifs seront mis en place? Quand mes marchandises arriveront-ils? C'est une course contre la montre. J'essaie de commander tous mes produits à l'avance pour le reste de l'année.
La plupart de ces biens, tels que les jouets et les t-shirts, proviennent de Chine, pays d'origine de Liang. Il s'attend à une augmentation de 10 à 20% de coûts d'expédition. À mesure que les prix augmentent à cause des tarifs, certains fabricants et détaillants peuvent commander moins de produits, réduisant ainsi le volume du commerce et du transport maritime entre les deux pays. Stéphane Cheng est membre du Centre du commerce mondial de Los Angeles.
Une fois que cela se produira, vous verrez une augmentation de frais de port, car si vous n'avez pas le volume nécessaire pour justifier les échanges de marchandises, vous constaterez une augmentation supplémentaire de ces frais de port.
Et bien sûr, les frais de port affecteront tous les échanges entre les États-Unis et la Chine, pas seulement les marchandises sur la liste à taxer. Le secteur du commerce et de la logistique, qui comprend les ports et la chaîne d'approvisionnement des camions et des entrepôts, sera la première victime de la guerre commerciale. Liang affirme qu'il va subir des pertes et ses marges vont diminuer.
Si les tarifs augmentent encore de 10 ou 20%, nous devrons augmenter nos prix.
Stéphane Cheng du Centre du commerce mondial de Los Angeles.
Donc, les consommateurs vont le sentir dans leur porte-monnaie très rapidement.
John Kenagi est l'un des responsables du port de Long Beach, l'un des deux ports de Los Angeles.
Nous devons attendre et voir comment les entreprises restructurent leur réseau d'approvisionnement et s'adaptent à l'environnement tarifaire.
John Kenagi affirme que jusqu'à présent, le port a vu des volumes records de containers cette année, mais il a des inquiétudes.
Les conséquences d'une guerre commerciale soutenue à long terme pourraient être dévastatrices pour les deux économies.
Les responsables de l'administration Trump insistent sur le fait que les entreprises américaines seront mieux loties après les tarifs.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Georges Léonard Sagno pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.